CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. CFM.
Bonjour et bienvenue dans Les Souris ne mordent pas. Donc avec Guillaume qui m'accompagne cette semaine. Thibaut qui ne sera malheureusement pas encore avec nous pour la seconde émission, mais je vous rassure, il sera là la semaine prochaine. Donc cette semaine, nous allons parler politique, hein, pour voilà. pour garder les bonnes habitudes. Donc nous allons parler politique et Internet, puisque en pleine présidentielle, c'est le moment. On les voit fleurir un peu partout sur Internet. Donc Guillaume nous parlera de tout ça. Avant, je vous parlerai de l'actualité mobile et tablette, puisque un grand salon vient de se clôturer à Barcelone. Et vu qu'on vous parle de nouvelles technologies, on va même en avance, puisqu'on va vous parler des technologies qui vont arriver bientôt. Voilà, et bien sûr, avant tout ça, l'actualité et un petit morceau de musique. À tout de suite dans Les Souris ne mordent pas en CFM.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's a ache I still remember.
C'était Gauthier dans Les Souris ne mordent pas en CFM et on débute l'émission avec l'actu. Et Guillaume, c'est toi qui nous présente l'actu cette semaine.
Voilà, l'actu des nouvelles technologies. Alors, cette actu fut marquée, ça vous n'avez pas pu y échapper, avec le successeur de l'iPad 2. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le nom de l'iPad 2, enfin le successeur, il s'appelle...
L'iPad 4
Non, même pas l'iPad 3, il s'appelle donc le The New iPad, tel est le nom qu'on veut lui donner. Alors, la présentation ne fut plus assurée par Steve Jobs. Disparu.
Ça aurait été vraiment une énorme surprise. Là, pour le coup.
un hologramme. Non, ce fut Tim Cook qui a repris le flambeau et vous remarquerez que personne n'en a parlé avant et ni après de lui. Donc, n'est pas Steve Jobs qui veut. Donc, cette nouvelle iPad, alors qu'est-ce qu'il a de nouveau pour justifier un tel buzz? Je vous pose la question.
C'est une révolution.
Voilà. Donc, concrètement, ce nouvel iPad n'a rien de nouveau. il n'apporte rien de vraiment différent.
Bon, t'es un peu dur.
Non,
t'aimes pas la pop.
Je te promets que si...
T'as pas le droit, c'est moi qui suis anti-pomme normalement.
Non, mais sincèrement, le seul truc que j'ai trouvé, c'est que Siri, qui est l'assistant vocal, permet de faire la dictée au niveau de l'iPad.
Ah, et... Siri, c'est une tuerie.
Oui, excellent. Alexis, bravo. Ah, celle-là, j'essaierai de la replacer, tiens.
Donc, sans commentaire sur le... sur la politique. Donc, non, sincèrement, il y a juste le processeur qui est un petit peu mieux, l'écran qui a une plus grande définition. Il est un petit peu plus lourd de 10% entre l'iPad 2 et l'iPad 3.
Et plus cher de...
On va y venir sur les prix. D'accord. Tu vas voir, c'est pas mal. Une caméra de 5 mégapixels et un système en fait de télé et de photos qui ne fonctionne que dans l'écosystème d'Apple. Donc il faut payer chaque fois pour profiter de tous ces systèmes-là.
Heureusement que après j'ai décidé de vous parler du salon du mobile qui prévoit quand même beaucoup de nouveautés.
Voilà. En parlant de nouveautés, au dernier trimestre 2011, pour vous donner un ordre de grandeur, il s'est vendu 15 millions d'iPads.
En 3 mois.
Voilà.
D'accord, bah, pas moi.
Moi non plus.
Pas encore. C'est plus que n'importe lequel des constructeurs de PC à cette époque-là. Donc, et pour finir donc sur une touche humoristique, donc on va parler des prix de l'iPad.
Ouais, ça doit être très drôle, oui.
Bon, ils ont baissé de 100€, hein, tous les iPad 2.
D'accord, ben, grand heureux.
Donc, si vous voulez, le premier prix de l'iPad 3, hein, ce new iPad, c'est 489€ pour 16Go Wi-Fi.
D'accord, mais avec ça, t'as rien?
Si, si.
489€?
Ouais.
Bon, en même temps. Bon.
Et est-ce que si j'achète l'iPad 1, je peux l'avoir gratos, ça?
Non.
Ah, dommage.
Donc, le 2 continue d'être vendu?
Tout à fait.
D'accord.
Et il est là pour, en fait, concurrencer les autres tablettes moins chères.
Moins chères. Ouais. Okay.
Et donc, le 489, le premier prix. Et 814, la Rolls pour le 64Go Wi-Fi 4G.
Et ça marchait à la sortie? Il y avait du monde dans les boutiques comme d'hab, à chaque fois ils nous font des...
Ah ben là, les précommandes sont explosées. D'accord. Donc vous pouvez plus précommander un iPad par...
Mais qui peut sortir comme ça 500€ pour aussi régulièrement? Moi, c'est ça qui m'étonne.
Ouais, les fans de nouvelles technologies.
C'est pas la crise pour tout le monde.
Non, et puis pour les patrons, les journalistes.
Non, les journalistes, non. Non.
Bah, ça reste moins cher qu'une console de jeu, non? Ou je suis pas fort en console de jeu.
Non, c'est plus cher qu'une console de jeu. Hein.
Mais pas mal de gens sont en train de plus acheter d'ordinateur portable et basculent sur la tablette, ouais. Qui fait un petit peu tout. Faut voir que la 4G, peut-être en Europe, ne sera pas utilisable sur l'iPad 3, donc ça reste à déterminer.
Mais d'ici à ce qu'on puisse utiliser la 4G en France, on sera au moins à l'iPad 7. Hein, donc.
Ouais. On aura un nouveau président. Il sera bien sûr dispo en noir et blanc, et vous pouvez l'acheter dès le 16 mars.
L'écran est noir et blanc?
Le contour est noir et blanc.
Ah, super. Je me suis dit, pour le prix là, si on n'a même pas la couleur ou quoi?
Non, vous pourrez l'acheter donc dès le 16 mars. Si vous le voulez vraiment, je vous invite à sortir votre tente et votre duvet afin de camper devant un Apple Store pour avoir une petite chance de l'avoir.
Donc le 16 mars, mais c'est cette semaine, ça en plus?
Ah oui, c'est samedi.
C'est vendredi.
Non, vendredi.
Vendredi.
Ouais.
Donc voilà.
Donc vendredi, posez une journée de congé et partez à l'Apple Store de Rodez qui n'est pas encore existant.
Non, je vous invite à celui-là de Montpellier, c'est le plus proche, si vous voulez vraiment l'avoir tout de suite.
Il n'y en a pas à Toulouse?
Non.
Voilà.
Non, mais j'étais à Toulouse ce week-end, j'ai pas vu...
Apple n'a rien compris.
T'as pas vu de tente?
Non, j'ai vu plein de trucs, mais j'ai pas vu ça.
Non, c'est quand même fou, quand même pas une semaine, ils ont déjà explosé leur réservation sur le net. Quoi.
Bon, ils font exprès.
Oui, oui. Peu de demandes, enfin peu de produits pour
PlayStation à l'époque, Sony à l'époque.
Voilà.
Comme Free Mobile d'ailleurs.
Oui, exactement. Oui. Ils créent la demande et, voilà, et la pénurie. Donc pour contrer le géant de Cupertino, Google lance lui aussi sa tablette. Il sera associé avec Asus Tech pour la construire. Donc une tablette qui disposerait en fait du diagonale d'écran de 7 pouces, donc un peu plus petit. Ce qui la placerait dans la même catégorie que le Kindle d'Amazon ou la Samsung Galaxy Tab.
Alors, les Google Cars roulent sans chauffeur. Est-ce que la Google Tab marche sans utilisateur?
Non, pas encore. Il en faut toujours.
Ah, dommage.
Non, donc au niveau du Google, voilà, il essaye de ne pas laisser entièrement le précaré à Apple. Voilà. Sinon, après la tablette, le combat continue entre Google et Apple, mais là, dans le domaine de la cartographie. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la cartographie?
Ah bon, on va retomber sur la géolocalisation.
Exactement.
Ah, une émission sans géolocalisation, ce n'est pas une émission, finalement.
Si, la semaine dernière, même. Bref, si vous utilisez une carte sur Internet, vous allez utiliser la géolocalisation. Donc, le plus connu de tous les systèmes de géolocalisation au niveau des cartes, c'est...
Maps, moi, ça s'appelait comme ça, mais c'est pas ça.
Voilà. Ouais, Maps, Google Maps. De Google, hein.
Ouais, voilà, ouais. C'est Google Maps. Ouais. En fait, Apple s'en servait de Google Maps dans tous ses services. Et il souhaite ne plus s'en servir, ne plus repayer une redevance qui lui coûtait très cher à un niveau de Google. Donc, en fait, il va servir de OpenStreetMap. Alors, OpenStreetMap, c'est un peu le Wikipédia de la cartographie. hein, pour situer les choses. C'est-à-dire que c'est gratuit, c'est collaboratif. Et le projet a commencé en 2004. Ce qui permet à chacun des internautes de pouvoir faire évoluer sa map.
D'accord. Et tu l'as testé ?
Oui.
C'est aussi bien que...
Oui.
D'accord.
Voilà.
Alors, c'est un super projet libre quand même. Et il y a énormément de groupes, surtout de randonneurs, qui participent à ça. C'est-à-dire qu'ils dessinent les cartes en temps réel. Et donc, du coup, ils les corrigent en temps réel aussi. Et c'est fait par des milliers de bénévoles. Et donc, c'est à soutenir.
Voilà. D'accord. Et c'est une carte mondiale qui sert à tout le monde, quoi. Et qui est réactualisée, quoi.
OK.
Donc, ça permet, vous pouvez y aller. Vous pouvez participer au projet. Hein, si vous avez un petit chemin qui n'est pas sur OpenStreetMap, vous pouvez le rajouter. Il sera validé. Donc voilà, Apple passe directement sur OpenStreetMap. Ils vont le remplacer. Le seul souci, c'est qu'Apple avait oublié de mentionner en fait qu'ils utilisaient OpenStreetMap. Donc ils s'en fait un peu taper sur les doigts et là ils ont contacté l'organisation pour réparer cet oubli.
Et puis ils vont mettre un peu de sous quand même, non ? Ah non, ils payent pas, ils utilisent ça gratuitement.
Voilà.
Puisque c'est collaboratif.
Entièrement.
Ah ben non, ils ont le sens des affaires chez Apple. Y a pas à dire.
Alors les projets libres, on rappelle qu'ils sont libres, certains sont gratuits, on a le droit de les utiliser, mais on doit quand même citer les projets qu'on utilise, les auteurs de ces projets, que ce soit OpenStreetMap, Wikipédia ou d'autres logiciels libres.
Ouais, enfin, on a le droit de faire des petits dons aussi.
On a le droit de faire des dons.
Et puis eux, ils ont les moyens, ils ont je sais pas combien de milliards de dollars en trésorerie, donc ils savent pas quoi faire chez Apple.
Voilà, et donc
ça il y a pas longtemps.
Exactement.
Si fleurissent la tombe de Steve Jobs, je rappelle.
Ah ouais, dis
donc. Donc voilà, c'est un petit peu OpenStreetMap, c'est un peu le Wikipédia, et là aussi, vous pouvez y intervenir et agir au niveau local. Après, dans le logiciel de la semaine dernière, on avait un petit peu commencé à avec ça, je vais vous parler de RetroShare. RetroShare, ça va vous rappeler le bon début d'Internet, c'est un logiciel gratuit de peer-to-peer.
Oui, le voilà. Truc qui est interdit connu, par Adopi, là.
Voilà, le P2P, donc peer-to-peer, c'est de vous à moi, pour faire simple, de pair à pair, quoi, d'un point à un autre, on s'échange des fichiers. Alors, vous connaissiez sans doute Emule, Kazam, Idonke, iMesh, Morpheus, des bons petits logiciels pour échanger du contenu. Donc, RetroShare, en fait, se différencie des autres, qu'il est un logiciel de communication open source, on y revient. Multiplateforme, c'est-à-dire qu'il peut être Apple, Linux, Windows. Privé, sécurisé et décentralisé. Donc, il permet de discuter et de partager des fichiers en toute sécurité avec vos amis et votre famille. En fait, vous allez vous servir de ce fichier pour partager les grosses photos ou les vidéos.
Mais en utilisant ce logiciel, on peut l'utiliser légalement.
Ah, totalement. J'invite tous les gens à utiliser le logiciel légalement. Alors, un petit rappel à la loi, c'est que vous n'avez pas le droit de diffuser du contenu, donc vous n'avez pas le droit de diffusion. Concrètement, si vous achetez un CD, vous n'avez pas les droits de diffusion. Vous avez les droits d'écoute chez vous, mais vous n'avez pas le droit de redonner ce titre à écouter.
D'accord, à des amis.
Voilà. Vous avez juste une copie personnelle pour vous.
Donc si vous faites une soirée avec des amis, vous n'avez pas le droit de passer de musique. C'est important.
Surtout si vous la faites payer, votre soirée. Donc voilà, RetroShare est un but familial et amical. Vous n'avez le droit en fait de ne partager que le contenu dont vous êtes propriétaire.
Et donc RetroShare, donc c'est français ?
Non, pas réellement. C'est européen.
D'accord.
RetroShare, SHARE, quoi.
Ah ouais, pardon, yes. Bien sûr, pas RetroShare.
Okay, je n'osais point.
Okay. Ah ben voilà. C'est bien en anglais, c'est pas ça.
Même s'il y a une forte communauté
celui
française.
Celui qui aime non plus et le mien non plus, non comme ça.
Alors pour ceux qui vont me dire ouais mais ça existait, effectivement il y a déjà un logiciel français qui existe qui s'appelle GigaTribe, hein, la tribu.
Ah non, très français, oui.
Voilà,
effectivement.
Hein, tout de suite. Ou Tribal Web, son ancien nom, qui fait exactement la même chose depuis des années dans l'anonymat le plus complet et avec plus d'un million d'utilisateurs. Donc voilà, vous pouvez partager du contenu entre vous. Ça évite les crewmates par exemple. Si la dernière vidéo de vos enfants au ski fait 1 giga, vous avez ce système là pour vous échanger ces fichiers. Voilà.
Rappelons que quand vous envoyez des très gros fichiers par mail, il est toujours préférable de faire héberger ces fichiers justement sur des plateformes comme ça, plutôt que de les envoyer dans le mail, puisque ça engorge les boîtes mail et ça met beaucoup de temps du coup à passer.
Tout à fait. Et pour rebondir aussi sur l'affaire Mega Upload a pu fermer parce que c'était centralisé. C'était des serveurs sur lesquels vous alliez vous connecter, vous alliez rechercher le fichier. Là, les serveurs, en fait, c'est tous les gens qui hébergent le logiciel, en fait, sont des petits serveurs à eux tout seuls. Donc, ils peuvent pas fermer, tous les serveurs. Donc, ce genre de système est vraiment ce que redoute, en fait, le gouvernement par rapport à ça.
D'accord, Guillaume.
Autre actu ?
Oh oui, un gros carton rouge.
Ah, le carton rouge de la semaine.
Voilà, je passe.
Après Sport on the Rock, on continue les cartons rouges.
Voilà, alors le carton rouge de la semaine va à PayPal. Alors PayPal, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est une sorte de porte-monnaie électronique. Si vous voulez pas utiliser votre carte bleue, vous pouvez créer un compte PayPal, y mettre de l'argent dessus. C'est gratuit et payer différents produits sur Internet. Des livres, votre dernière collection de montres, par exemple. Et vous pouvez aussi recevoir des dons PayPal. Mm-hmm. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes une petite association, vous pouvez mettre un petit bouton PayPal sur votre site et les gens vont vous donner de l'argent et vous allez récolter cet argent et le transférer sur votre compte bancaire.
C'est une méthode qu'utilisait d'ailleurs Wikileaks pour récolter les dons.
Je vais revenir à la fin de ce carton rouge. Alors, PayPal, en fait, je lui donne un carton rouge parce qu'il souhaite censurer les littératures érotiques. Alors pas que je sois un grand consommateur, mais PayPal, en fait, il permet donc d'acheter et il refuse maintenant de traiter les paiements qui concerneraient des œuvres qui contiendraient des narrations de viol, d'inceste, de zoophilie ou de scènes de sexe impliquant des enfants, que ce soit entre eux ou avec des adultes.
Ah ouais, mais là, c'est plus qu'érotique.
Oui, mais
Guillaume, on n'a pas la même conception de l'érotisme.
Non, mais exemple, le Marquis de Sade.
Ouais, il y a des animaux dans le Marquis de Sade.
Le Marquis, oui. Je vais
pas faire une classique. Ah,
d'accord. Je le passerai. Et le Marquis de Sade ne serait pas disponible.
D'accord.
Donc, en fait, PayPal fait pression sur les petites maisons d'édition pour enlever de ce contenu à la vente.
C'est des potes à Apple, quoi.
Ouais.
Voilà. Donc, ces plateformes sont en train de lutter contre ça. Et PayPal, qui appartient à eBay, c'est assez paradoxal en fait, parce que eBay continue de vendre ces contenus-là, mais PayPal interdit aux autres de les vendre.
D'accord.
Alors je me demande, est-ce que c'est pas une tentative pour eBay d'avoir une position de monopole sur la littérature érotique ?
Alors, pour compléter le carton rouge, j'appelle à tous les utilisateurs de PayPal à utiliser la nouvelle alternative française qui s'appelle Quixio. Voilà.
Comment tu l'écris ?
Quixio.
D'accord.
De mémoire, voilà, c'est une alternative à PayPal. Et il a l'avantage en plus de bloquer votre argent tant que le colis n'est pas livré. Donc en fait, c'est vous qui débloquez l'argent quand vous avez reçu le colis.
D'accord.
On mettra le lien sur la page Facebook.
Volontiers.
Des souris ne mordent pas.
Ouais, d'ailleurs, on va le mettre de suite.
Allez.
Donc ce que je tenais à dire, c'est que c'est pas un intermédiaire de dicter ses volontés sur le contenu vendu. Fâcheuse tendance que l'on a déjà observée avec PayPal, Visa et Mastercard dans l'affaire Wikileaks en décembre 2010, où ils avaient fait preuve d'ingérence en arrêtant toute relation commerciale avec Wikileaks pour des motifs politiques. Là, on est sur des motifs culturels, d'ordre, et je trouve qu'ils sont en dehors de leurs prérogatives.
Ils se justifient ou
non.
Pas ? Parce que, par exemple, avec une carte bleue, tu peux aller acheter des...
Non, juste la protection de l'enfance, or que c'est quand même des œuvres qui sont dans le domaine, quoi.
D'accord.
Qui sont en vente.
D'accord.
Et là encore, la position ambiguë entre eBay et PayPal, où PayPal n'est qu'une succursale d'eBay maintenant. Quoi.
Eh bien, dis donc, sacré carton rouge.
Tout à fait. Alors, pour finir cette actu sur une note positive, je vais vous parler d'Angry Birds. Les oiseaux pas contents. Le célèbre jeu où il faut dégommer des cochons avec des oiseaux.
Moi, je rappelle quand même que je préfère Worms. Hein, c'est très vieux, mais franchement, au moins les petits vers, c'est plus délire que les oiseaux.
Perhaps, mais Angry Birds s'est offert un lancement peu commun avec rien de moins qu'un astronaute dans l'espace pour vous expliquer le prochain opus. Alors, je sais pas si dans Worms ils ont prévu de. Non.
Je pense pas.
Chiliennes, ils ont pas parlé.
Rappelons aussi que Free a mis à disposition sur la Freebox Revolution le jeu.
Tout à fait.
Angry Birds.
Tout à fait. Donc, en fait, il va y avoir un nouveau jeu, Angry Birds Space, qui se passe dans l'espace. Et pour expliquer le jeu, en fait, ils ont fait intervenir un astronaute qui était dans la station spatiale. Et où il montre qu'il faut tenir compte de la pesanteur de la gravité au moment de lancer les oiseaux.
Ah, ça bosse dans l'espace, hein.
Totalement. Alors la sortie est prévue le 22 mars sur l'App Store, le Google Play, qui a changé de nom, hein. Je sais pas si vous l'avez
remarqué. Ah, je me suis rendu compte de ça, on a le nom de mon téléphone il y a deux jours.
Voilà. Donc l'Android Market,
disparu.
Voilà.
Google Play.
Exactement.
J'ai cru que j'avais été piraté.
Donc pour ceux qui doutaient que la plateforme va devenir une plateforme de jeu, Google Play montre bien le nom.
Pourquoi ?
Bah, Google Play. Et donc, Angry Birds va sortir ça en version PC ou Mac. À votre avis, combien de téléchargements de l'application Angry Birds ?
Deux. Oh, des millions.
Ouais, merci.
Mais, un peu plus. Bon, bah, 5.
Un peu plus ?
En combien de temps ?
Depuis le début.
Oh, depuis le début. 700.
Exactement.
700 millions ?
Tout à fait.
Oh, bravo. Je me félicite moi-même.
Si tu trouves le nombre de peluches, je te fais un bisou.
Le nombre de quoi ?
De peluches vendues.
Moi, je vais sortir là. Si vous commencez à faire des bisous, ça va pas aller.
De peluches Angry Birds ?
Ouais, exactement.
Oh non, là, si 1 million, ça serait déjà beaucoup.
Un peu plus.
Ah bon ?
Ouais.
3 millions ?
Tu peux multiplier, ouais.
10 millions de peluches Angry Birds ?
Un peu plus que du double encore. Ouais. Peut-être qu'à la moitié là.
50 millions ?
25 millions de peluches Angry Birds.
Oh bah merde.
Ouais.
D'accord.
Ouais, mais c'était le cadeau fort de la Saint-Valentin, je suis sûr.
Ouais, et puis Angry Birds, il y a du message derrière, quoi. Donc juste quand même pour dire que cette collaboration, la NASA l'a justifiée en expliquant que c'est un moyen d'intéresser les gens aux missions d'explorateurs et de découvertes. Et pourrait même aller jusqu'à sensibiliser les étudiants à des parcours scientifiques et technologiques.
C'est vrai qu'un oiseau, ça vole.
Voilà. Donc si vous voulez que votre enfant devienne un astrophysicien ou un scientifique, vous savez quoi lui offrir, quoi, comme jeu. Le 22 mars.
D'accord.
Ah non, mais Alexis, il reste sur ses vers de terre.
J'ai compris que ça passe au-dessus de sa tête.
Ouais, mais avec les vers de terre, vos enfants deviendront tunneliers et construiront des tunnels.
Et juste, il y a bientôt la fête de l'Internet et à la fin de l'émission, je vous dirai toutes les infos locales là-dessus.
Ah, pour vous garder jusqu'à la fin de l'émission, donc on reviendra d'ici une petite demi-heure donc sur l'actualité locale. Tout l'actualité fait. Nationale, internationale, c'est beau ?
Oui.
Eh bien, parfait. Alors donc, on va se mettre une petite musique et après, on revient pour parler donc de mobile, de tablette et de vraies nouveautés pour le coup. À tout de suite en CFM.
Light on, heavy glow, by the way. say I'd be there waiting for.
C'était les Red Hot Chili Peppers dans les Souris ne mordent pas sur CFM et donc nous revenons pour parler de nouvelles technologies et du coup je vais reprendre la présentation de l'iPad 3, enfin je vais pas vous parler d'Apple parce que j'aime pas trop ça et je vais vous parler en fait du Mobile World Congress qui se tient à Barcelone chaque année et qui cette année s'est tenu du 27 février au 1er mars. Et ce congrès en fait nous présente les nouveautés en termes de téléphonie et de tablettes, alors de smartphones et de tablettes. Donc on va voir qu'est-ce qui nous attend en 2012, quel téléphone pardon, on va trouver en 2012. Alors c'est vrai qu'on s'attend à des téléphones plus puissants et plus grands. Hein, on parle toujours de puissance parce que bah maintenant il faut faire tourner un peu tout puisque les smartphones et les tablettes deviennent de vrais ordinateurs. Donc c'est vrai qu'on retrouve maintenant des processeurs à plusieurs cœurs, donc c'est même pire que les ordinateurs je dirais, et on retrouve des téléphones plus grands, donc des smartphones qui se rapprochent des tablettes, donc c'est vrai que maintenant bah, on n'aura plus à hésiter entre téléphone et tablette, on pourra avoir les deux dans un seul appareil.
Mais alors vous qui êtes à fond dans ces trucs-là, excusez-moi, est-ce que vraiment cette puissance qu'on met dans les téléphones là, on en a besoin?
Pour jouer à Angry Birds, ah oui.
C'est vrai?
Non, en fait, ils vendent, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils font des applications qui sont gourmandes de technologie, de puissance, ouais. Et ils font les processeurs qui vont avec.
D'accord.
Donc c'est juste, en fait, pour avoir la dernière application, il faut le dernier téléphone. Pour le dernier téléphone, il faut les dernières applications.
D'accord. C'est comme les ordinateurs.
Parce qu'Angry Birds, bon, moi je ne connais pas, mais globalement, c'est l'équivalent des jeux consoles d'il y a 15 ans, graphiquement. Non?
C'est un peu plus amélioré quand même.
Un peu plus amélioré.
D'accord. Bon, c'est moi qui suis méchant.
La véritable question là-dessus, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que.
Bah voilà.
On était à des téléphones qui, à 10 ans, 12 ans, étaient sur 24, 48 heures d'autonomie, en pleine puissance, à appeler les compagnies.
Oh, même presque une semaine. Hein,
voilà.
Oui.
On voit le. Et exactement. Et alors que là, il n'y a aucun téléphone smartphone qui dépasse ne serait-ce que les 12 heures ou 16 heures d'utilisation intensive.
Voilà. Parce que moi, j'ai un nouveau téléphone qui est magnifique, plein de cœurs, je ne sais quoi, comme vous le dites là. Ça marche très bien, ça va très très vite, mais ça ne sert à rien. Mais en revanche, ce que je constate, c'est que je suis obligé de le recharger tous les 24 heures maximum.
Ouais. Si vous utilisez la géolocalisation, le surf Angry Bird, vous ne faites pas 12 heures.
Ouais, c'est clair.
Donc, il faut même savoir qu'en plus, les nouveaux smartphones ont besoin d'être tout le temps connectés pour tout le temps se mettre à jour. Donc, du coup, c'est, vous pouvez même pas vous dire, bah, je le déconnecte puisque il a besoin de relever les mails, il a besoin d'envoyer des SMS pour se mettre à jour, je sais pas trop quoi. Donc, effectivement, ils sont tout le temps connectés.
Et alors, donc, dans ce salon, ça avance pas au niveau des batteries, ça avance qu'au niveau des processeurs et de la taille des écrans.
Et oui, parce que les utilisateurs s'en moquent de la batterie. Ils ont toujours une prise électrique à côté, donc il n'y a pas de souci.
Ah, c'est chiant quand même.
Non, alors c'est vrai qu'on n'a pas vu de nouveautés au niveau de l'autonomie des téléphones et je pense pas qu'on puisse faire de miracles. Hein.
Moi j'ai vu un petit système où en fait en marchant tu rechargeais ton téléphone quoi. Ils en sont là quoi.
Ouais, j'ai vu un système c'était aussi où t'avais un masque que tu te mettais sur le visage et en fait en respirant tu rechargeais ton téléphone.
Ah.
Voilà, donc ça peut être utile pour les dormeurs ou les coureurs quand vous courez. Vous rechargez votre téléphone en même temps. Voilà. Alors pour revenir donc à toutes ces nouveautés, on a vu pendant ce salon donc le succès du Galaxy Note de Samsung, donc Samsung qui reste dans la lignée des Galaxy et qui sort un Galaxy Note avec un écran géant donc de 5 pouces, de 5,3 pouces même exactement, ce qui fait à peu près 13 cm et demi. Donc c'est quand même pas rien. On a vu aussi LG qui essaye de concurrencer Samsung et qui a sorti un smartphone XXL puisqu'il a sorti son Optimus Vue avec un écran de 5 pouces. Donc il est vraiment pas loin de Samsung. Donc on est vraiment sur des smartphones de plus en plus grands.
Plus grands que les poches.
Ben voilà. Mais d'ailleurs, Levi's va sortir.
Ah ouais, non mais c'est pas vrai. Il va falloir.
Voilà. Ils sont tous liés.
Comme vous aurez changé votre téléphone, il faudra changer tous vos jeans qui vont avec. Et alors, chose à souligner qui est assez originale, c'est Asus qui a sorti un téléphone qu'ils ont appelé le Padfone, qui a un écran de 4,3 pouces, qui fait à peu près 11 cm, et qui a le gros avantage en fait de se clipser dans une tablette. Voilà, donc en fait, il se transforme en tablette, et il se transforme dans une tablette de 10,1 pouces. Donc du coup, vous avez la tablette et le smartphone en même temps, donc c'est assez pratique. Ça vous évite d'avoir deux outils et de faire deux fois chaque révolution chaque année. Là, vous révolutionnez qu'une fois. Alors, c'est vrai que au-delà de la taille, quand même, les téléphones gagnent en pixels, donc en résolution. Donc, du coup, ils ont des images de plus en plus nettes. Mm-hmm. Voilà, pour rappel, hein, les pixels, c'est tous les petits points qui sont sur l'écran et qui composent l'image. Donc, on voit débarquer dans les smartphones la HD et même la Full HD.
C'est le même argument qu'a repris Apple avec l'iPad 3. Hein. Regardez, vous allez avoir l'HD dessus. Quoi.
Voilà. C'était la semaine dernière, je crois. Tu parlais d'un Nokia avec son appareil 41 millions.
Tout à fait. Mais j'y vais revenir d'ailleurs tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on, voilà, après vous avoir fait changer les téléviseurs pour avoir la HD, maintenant vous faites changer vos téléphones pour avoir la HD dessus aussi. Donc, alors, je sais pas si beaucoup de monde regarde des films avec son smartphone. Moi, je trouve ça trop petit pour regarder un film.
Moi, j'ai essayé. C'est vrai que c'est trop petit, mais c'est joli.
Moi, j'ai fait Avatar dessus, c'était pas mal.
En 3D?
Non, juste en.
Donc ouais, ne changez pas tout de suite vos smartphones parce que l'année prochaine sort la 3D. Donc,
d'accord.
Donc on parlait de puissance. Alors on a vu lors de ce salon Nvidia, qui est un fabricant de processeurs, qui se lance.
De cartes graphiques.
De cartes graphiques, pardon, mais qui fabrique aussi des processeurs pour le coup. Enfin, qui se lance donc dans les mobiles et qui a sorti un Tegra 3 qui est propulsé à 1,2 GHz. Donc les GHz, c'est la fréquence.
Ouais.
Donc voilà, c'est ce qui fait la puissance en fait de votre smartphone.
Et donc, comparaison par exemple à un PC de bureau ou un PC portable de base, ça fait quoi, c'est quoi la puissance par rapport à ce que tu viens de dire, 1 GHz 4?
1 giga 4, c'est ce qu'on avait en 97, 98, un PC. 99.
D'accord.
Ouais. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne monte plus trop dans les gigahertz, puisqu'on multiplie les cœurs.
Ah oui, c'est vrai, double cœur, triple cœur.
Voilà.
D'accord.
Donc, vous allez avoir, en fait, un cœur qui fait, par exemple, 2 gigahertz. Mmh. Et s'ils ne peuvent pas monter plus haut, bah, ils vont faire deux cœurs de chacun 2 gigahertz, ce qui vous fera un équivalent à peu près de 4 gigahertz.
J'en reviens à mon nouveau téléphone qui a deux cœurs. Je suis parvenu. Moi, j'adore.
À quand les humains avec deux cœurs, quoi. Ouais.
Faudrait déjà qu'ils n'ont rien, tous. Un peu de poésie, ne fais pas de mal, non, sur le monde, quoi.
Donc voilà, alors Nvidia qui équipe notamment les tablettes Asus, qui équipe aussi les HTC et les smartphones de LG. Voilà, donc, et ZTE aussi, qui est une marque chinoise, il me semble.
Mm-hmm.
Voilà, donc Nvidia qui nous amène des smartphones plus puissants. Alors c'est vrai qu'on a vu aussi Qualcomm, Samsung, Texas Instruments, hein, qui sont aussi des fabricants de processeurs, enfin de puces en général. Et qui suivent en fait Nvidia. Et on a Huawei. Alors ça, j'ai jamais réussi à le dire. Ça fait plusieurs fois dans l'émission que je me foire avec
ton
ça.
Défi.
Voilà. Donc c'est Huawei, fabricant chinois ou coréen.
Ouais, chinois.
Chinois. Oui. Qui a sorti un smartphone surpuissant. Ça a été la surprise du salon.
Dopé.
C'est ça, dopé à l'EPO. Hein. Ils ont récupéré un peu du Paris-Nice. Et donc,
qu'est-ce que t'as contre le vélo?
Laisse pas tirer ta sereine.
Ce magnifique Paris qui est passé à Rodez et Honnêt-le-Château cette semaine. Mais non, ils allaient vite, mais ça marchait tout seul.
Ouais, c'était en descente aussi. Comment c'est remonté?
Donc voilà, ils annoncent un processeur 50% plus rapide que le processeur Nvidia qu'on parlait juste avant. Et 30% plus économe en énergie. Donc voilà, puisqu'on parle d'économiser la batterie. Donc voilà, Huawei qui a été la surprise. De ce salon. Et
oui. Juste une petite parenthèse aussi. Après l'autonomie, il y a aussi la question de la chaleur, quoi. Puisque plus on fait des téléphones puissants,
plus ça chauffe.
Voilà.
J'ai constaté ça sur le mien aussi.
Exactement. Ah, ouais. Et que de double cœur, quoi. Donc, non, il y a un effet de dissipation de chaleur. Il y a un problème là-dessus. C'est qu'on ne pourra jamais aller très très haut parce que trop de chaleur.
Et alors à terme,
c'est bien, ça stérilise.
Oui, ça brûle. Mais à terme, quand même, parce que dans ces salons, est-ce que c'est comme dans les salons de l'auto, il y a aussi des prototypes, des voitures qui n'existeront jamais, là, des téléphones, c'est qui sont un petit peu l'image de ce que pourrait être les téléphones immobiles dans 10 ans. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça, genre, tu vois, les problèmes de chaleur et de batterie, il y a des débuts de solutions, des débuts de propositions? Ou c'est vraiment les produits de l'année
Contrairement aux voitures, en général, on ne fabrique pas des téléphones qu'on ne verra jamais.
Non, mais même virtuellement, il y a des vidéos.
On parle de téléphones et d'avancées, effectivement.
Parce que moi, ce que j'attends dans les mobiles, excusez-moi, je parle un peu de moi, parce que je regarde ça, j'ai bien les téléphones. Moi, ce que j'attends, tac, c'est des trucs mous.
Mou?
Ouais, tu sais, pour que dans la poche, voilà, ça se plie un peu.
Il y a un écran.
Et surtout, moi, montre. Enfin, quelque chose qui se met au poignet, parce qu'un téléphone, tu le sors d'une poche, tu le mets à l'oreille, tu le redescends dans ta poche, c'est tout un bordel. Si on avait tout sur un genre de bracelet.
Alors, je vous laisse tous imaginer,
David
avec son poignet à l'oreille en train de téléphoner.
Non, alors, ils font pas des trucs.
Non, le truc que j'ai vu, c'est par contre, c'est la taille d'une boîte d'allumettes. en fait, et ça va remplacer le téléphone et ça projette en fait une sorte d'écran que tu peux avoir. T'auras ton clavier numérique par exemple sur ta main,
ben
ou
ben
sur,
voilà,
voilà, ou sur la table ou sur une vitre.
Ben voilà.
Et tu tapes directement et ça peut.
Bon, ça c'est pour quand?
On va dire 2015.
Alors, 2015. C'est contrairement à la voiture, je dirais, ça existe déjà, ces prototypes. Ouais. Sauf que c'est pas commercialisé forcément pour tout public. Parce qu'en général, ce sont des solutions qui coûtent assez cher. Mm-hmm. Notamment l'écran mou. Alors, ça existe puisque c'est des écrans tout mou qui se roulent. Ouais. En fait, et qui sont du coup incassables. Et donc ça existe déjà, même qu'ils les mettent maintenant sur des blousons, sur des manches de blousons.
Les militaires, ils l'écran. Doivent avoir ça. Mm-hmm. Toujours 10-15 ans d'avance dans ces matériels-là.
Prédator. C'est possible, ouais. Ouais. Donc ça existe déjà, mais est-ce qu'on verra un téléphone mou? Je suis pas sûr, ça doit pas être facile à tenir en main en plus.
C'est vrai.
De toute façon,
c'est vrai. Non, mais t'as raison, à la limite, c'est ce qui est mieux, c'est le truc dématérialisé où tu te projettes un peu.
Mais même là-dedans, c'est ce qui les intéresse, c'est pas que ça soit incassable ou que il faut consommer.
C'est vrai qu'il faut que ça se casse. Tu
voilà.
Le disais la semaine
dernière. Faut reproduire. Donc, on va rester sur
l'obsolescence programmée.
Voilà, l'obsolescence programmée. Donc, alors,
moi, j'ai un doute quand même sur le téléphone qui se projette sur une table sur laquelle on peut taper. C'est vachement bien, mais quand vous recevez un appel en pleine rue pour décrocher, vous êtes obligé de vous arrêter auprès du mur pour projeter sur le mur et décrocher.
Bah. Ouais.
Non, tu cliques juste sur ta petite boîte d'allumettes sur le côté et tu la portes à ton oreille.
On n'a pas fini de prendre les gens pour du fou si le téléphone est une boîte d'allumettes. Alors, c'est vrai que le futur du téléphone, c'est aussi la photo. Puisqu'on en parlait la semaine dernière de Nokia qui a sorti son photophone de 41 mégapixels. Alors, pour rappel, il prend pas des photos de 41 mégapixels, mais il prend des photos de 5 mégapixels. Et en fait, il utilise le reste pour zoomer sur la photo. Donc, on se retrouve avec des zooms environ de 3 fois pour de la photo et de 4 fois pour de la vidéo sans perte. Donc, c'est quand même assez impressionnant. On a vu aussi l'HTC One qui a sorti un téléphone avec un capteur de 8 mégapixels. Alors, moi, ça m'épate parce que ça devient des appareils photo professionnels. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aura plus besoin d'appareils photo, même si j'imagine que la stabilité ne doit pas être évidente avec un smartphone.
Bah moi sur mon nouveau téléphone j'en reparle, je crois qu'il y a 8 mégapixels, mais c'est bien joli, mais je trouve pas qu'il fasse des plus belles photos que l'ancien qui faisait 3 ou 5. Et puis d'une part, et d'autre part, effectivement, moi je suis pas photographe, les 3 quarts sont flous.
Alors les belles photos sont pas faites par les appareils, mais par les photographes quand même.
Ouais. Bah voilà,
on est et là ça s'achète pas malheureusement. Ouais.
Donc l'HTC One quand même a un capteur avec une mise au point de 0,2 secondes et un déclenchement de 0,7 secondes. Alors là je parle aux photographes. Qui sont experts là-dedans et donc c'est vraiment du matériel professionnel quoi. On pourrait pratiquement faire, je pense, un expo photo avec ça quoi.
Juste une petite question là par rapport à tous ces téléphones, c'est des cartes SD ou alors elles ont un disque dur interne?
Moi je peux pas vous aider. Hein. Comment ça, il y a une carte SD dans mon téléphone?
What?
Alors moi j'ai encore le Nokia avec le premier disque dur interne qui pèse une tonne. Non, maintenant les téléphones sont équipés de mémoire SSD.
D'accord.
Donc, de mémoire rapide, flash, qu'on appelle ça. Voilà. Mais je pense que vous devez toujours avoir les bonnes vieilles cartes SD pour décharger la mémoire, quand même. Mmh. Mais de toute façon, maintenant, il n'y a plus besoin puisque ça se connecte en permanence à Internet. Et donc, maintenant, quand vous prenez une photo, ça l'envoie directement sur Twitter, sur Facebook. Donc, c'est magique. On n'a même plus besoin de la stocker sur son téléphone.
Moi, je ne fais pas encore, j'ai peur de tout ça. Je débranche tout à chaque fois.
Puis ça doit marcher, mais il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant « Oui, alors j'ai perdu mes photos,
j'ai fait la sauvegarde. » Mais non, elles sont sur le clou dès le jour. Ouais. Voilà, donc alors on va quand même parler des grands absents de ce salon, parce qu'il y a quand même des absents. Alors Apple, qui n'a jamais voulu d'ailleurs être à ce salon, donc Apple qui fait tout différent des autres, n'a jamais voulu présenter ses modèles à ce salon. Et d'ailleurs, ils ont attendu la fin du salon puisqu'ils ont présenté l'iPad 3 le 7 mars. Donc on ne reviendra pas dessus. Tant mieux. Merci Guillaume de l'avoir présenté. Donc du coup, on n'a pas vu le Galaxy S3. Donc pour rappel, hein, Samsung s'est arrêté au Galaxy S2. Donc on attendait le Galaxy S3 qui normalement devrait sortir à l'été. Donc il y a eu beaucoup de rumeurs dans ce salon, donc on va en parler, hein, mais ce ne sont que des rumeurs. Donc le Galaxy S3 aurait un processeur donc de 4 cœurs, wow. 1,5 GHz, donc sûrement de chez Nvidia, puisque c'est eux qui travaillent avec Samsung. On parle d'un écran Full HD 16/9, donc de 12 cm, Voilà. Donc vous allez pouvoir regarder la télévision sur votre téléphone. On parle d'un capteur photo ultra rapide de 8 mégapixels. Voilà. Et un boîtier en céramique.
Ah, sympa.
C'est intéressant.
Sympa. Rappelons que la céramique conduit l'électricité quand même.
Aïe. Donc...
Non, c'est l'inverse.
Ouais, non.
Non, c'est l'inverse. Bon, ok, j'ai rien dit. Donc voilà, le Galaxy S3 était un peu un condensé de tout ce salon, hein, de toutes les nouveautés pour ceux qui ont suivi de ce salon. Donc voilà, bientôt, d'ici l'été, on devrait voir pas mal de belles choses sortir. Donc avant d'acheter l'iPad 3, quand même, gardez un peu d'argent parce qu'il y a quand même de belles choses qui vont sortir. Alors, pour faire rapide, hein, le Galaxy Note devrait sortir courant 2012. Le Nokia de 41 mégapixels, c'est le 808 PureView. Voilà, qui sortira en mai 2012, donc très bientôt. De quoi d'autre on a parlé aussi
Le HTC One, là.
Alors, Huawei.
Ah oui, Huawei.
Huawei.
Tes copains.
Je voulais pas le redire, donc j'ai essayé de l'éviter, mais pas de chance. Donc, qui devrait sortir au deuxième trimestre 2012. Le Padfone de chez Asus.
J'aime bien le nom Padfone. Non, non, pas de téléphone, ça.
Non, non, le nom.
Pas de chocolat.
Le nom est sympa. Donc, il sortira en avril 2012, donc bientôt. Et Intel qui va sortir son premier smartphone. Donc pour rappel, hein, Intel est un fabricant de processeurs pour l'informatique qui s'est associé avec Orange pour sortir son smartphone et qui sortira dans l'été 2012 aussi. Voilà, c'était la nouveauté en mobile et en tablette. Donc on va se faire une petite pause avant de prendre... parce que là, on a chargé la barque. Donc on va se faire une petite pause avant de parler politique parce que c'est vrai que ça va être aussi un peu saoulant dans la politique. Pas ton sujet, hein, mais en ce moment on entend pas mal parler de politique. Donc on s'écoute Irma.
Ouais, c'est ça.
Voilà,
à tout de suite. C'est toi qui l'as voulu en plus.
C'est ton choix.
C'est vrai, c'est mon choix. À tout de suite d'aller sur une mort de pain en CFM.
I'd like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you tell me you don't care. I heard you think it loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. You blew my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. When I look right into your eye, those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story of my life. And I know, that it's not a dream.
De retour dans les souris ne mordent pas en CFM pour l'émission des nouvelles technologies. Et donc après vous avoir parlé mobile, tablette et de vous avoir donné plein de chiffres dans tous les sens, il reste quelques survivants. On va parler un peu de politique et internet. Donc c'est vrai que c'est l'époque avec les présidentielles et les législatives, on les voit revenir sur la toile là.
Tous les jours. Donc je vais commencer par faire un petit point entre les hommes politiques, internet et les citoyens. Juste prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Bon, on est tous d'accord qu'Internet est un formidable outil de communication. Investi intelligemment, il permet entre autres de réunir des personnes autour d'un projet et de le faire avancer. Je pense qu'Anonymous en est un bel exemple.
Oui.
Voilà. Alors, après 10 ans après le 21 avril 2002, où les politiques nous avaient expliqué que le fossé entre les élites et le peuple s'était creusé, ils feraient de la politique autrement, plus proche des gens, avec des citoyens vraiment investis dans les affaires de la cité.
Oh, moi, je suis désolé, mais Sarkozy était très proche des gens. Hein.
Ah ouais?
Ah, ouais. Non, mais attends, tout le monde est en yacht et va au Phuket. Hein,
D'ailleurs, j'y reviens mercredi. Donc, presque 10 ans après, c'est que le constat est là. Rien n'a changé. Internet est un outil de propagande avec un budget colossal, un enjeu de communication incontournable, mais en aucun cas un nouveau lien entre le citoyen et la politique. Je crois que là-dessus, c'est clair, c'est que et si une majorité de Français trouve cette campagne présidentielle inintéressante et un petit peu ennuyeuse, c'est que cette absence d'échange d'égal à égal n'y est pas pour rien.
Et tu crois que c'est volontaire de leur part ou c'est plutôt que, bon, bah, en même temps, on peut pas répondre à tous les, si tous les Français envoient un mail à Sarkozy ou à n'importe quel autre
candidat? Non, c'est au-delà de ça, c'est que des politiques ne mettent même pas en œuvre des moyens pour travailler collectivement avec les gens. Ou pour faire remonter des idées de la base.
Alors là, je suis pas d'accord.
Et j'étais sûr qu'Alexis allait dire quelque chose. Parce qu'il y en a un, monsieur.
Et il est là ce soir.
Non, je suis pas d'accord. Non, c'est vrai que les politiques utilisent beaucoup Internet pour communiquer, mais on a vu des programmes qui se sont écrits collectivement sur Internet quand même.
Ah d'accord.
D'accord. Alors juste, je continue mon argumentation.
Alors qui?
Ouais.
Bah, dis-le parce que moi je sais pas.
Alors le Front de Gauche notamment.
Ah d'accord.
A écrit un programme partagé.
D'accord.
Voilà, ils ont ouvert une plateforme participative, donc maintenant elle est fermée puisque le programme est lancé, mais ils ont ouvert une plateforme participative sur laquelle ils ont invité tous les internautes à venir écrire. Le programme, et d'ailleurs le programme qu'il présente aujourd'hui est tiré de ce programme partagé. Et puisqu'on parle de numérique, le Front de Gauche du numérique a même lancé un wiki récemment pour inviter en fait tous les fans de numérique à venir écrire la suite du programme pour le numérique.
D'accord, voilà. Ouais. Sachant qu'il y a un Conseil national du numérique aussi monté par le président de la République.
Donc voilà, je suis pas d'accord. Et puis il y a quand même certains politiques qui répondent, notamment Nadine Morano, quand on l'insulte sur Twitter, elle répond.
Oui, presque. Non, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on est quand même malgré tout.
Je défends Nadine Morano parce que elle vient de chez moi, donc si je l'aime pas, c'est quand même une Lorraine, donc bon.
D'accord, solidarité voilà. Locale, d'accord, ok, ça explique ceci. Je voudrais quand même dire qu'on est quand même toujours dans le schéma classique du leader qui instruit les foules. Et là, même si le Front de Gauche a pu faire une collaboration participative sur leur projet, on est quand même sur un leader qui instruit les foules, où les foules sont de simples spectatrices. Et on est des simples spectateurs. Alors qu'Internet permet à chacun d'être acteur, là on se retrouve quand même toujours dans un certain schéma classique. On peut s'interroger donc sur la volonté des hommes politiques de nous cantonner dans un rôle de spectateur. Mmh. Alors je sais pas si c'est un problème des générations, je sais pas si vous connaissez l'âge moyen des députés.
Non, mais...
Des députés encore, ça va.
Ouais.
Les sénateurs, c'est pire.
Ouais. J'ai les deux. Hein. J'ai les deux
alors. Alors, l'âge moyen des députés, donc tu veux...
Ouais. 53 ans.
57.
Ah, bah, entre les deux. 55. Et pour le sénateur
61.
70.
Presque entre les deux, 65.
65.
Donc voilà, on voit quand même qu'on est des... On a quand même élu des gens qui ne sont pas super au fait des nouvelles technologies.
Non, ça, oui, c'est sûr. Enfin, quoi que ça, sauf exception.
Sauf exception, ou alors c'est leur conseiller d'image qui le font. Donc, voilà, est-ce qu'ils sont réellement concernés par Internet? Est-ce qu'ils y voient un truc intéressant? Ou alors est-ce que c'est une peur tacite de donner au peuple les outils pour vraiment s'impliquer dans la vie politique?
Mais alors, tu crois que dans les futures générations, celles qui sont nées avec Internet et le Web 2.0, et qui arrivera un jour au pouvoir, ça changera?
Oui, totalement.
D'accord.
Totalement. De la façon de ne serait-ce que de construire la politique et de voir. Je pense qu'il y a d'autres façons d'élaborer.
Le but, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Hein.
Bah, le but de qui?
Non,
non
mais
ça se saurait. Hein.
La transparence, l'open data dont on parlait il n'y a pas très longtemps, ça rentre dans refaire de la politique. Et je crois que les Français ont peut-être besoin de ça et qu'il y a des éléments, mais qu'il y a un problème générationnel.
Alors, je suis pas d'accord.
Again.
Je
tiens à dire que...
Alors, il faut souligner quand même une bonne initiative de l'État et du gouvernement Sarkozy. Hein, il y en a quand même eu une.
Vas-y, je la marque.
Puisqu'ils ont lancé une plateforme de modernisation de l'État où ils ont invité tous les internautes à venir participer. Alors, je dis pas qu'ils ont écouté quoi que ce soit, ce qui a pu être posté dessus. Je sais pas ce qu'en est ressorti, si c'est fini ou s'il continue.
C'est un truc dont on verra jamais la couleur.
Peut-être.
Là, c'est pas que Sarkozy, c'est les autres, c'est pareil.
Mais sachez que si vous cherchez sur Internet modernisation de l'État, vous avez une plateforme participative lancée par le gouvernement où vous pouvez exprimer vos souhaits. Notamment sur les horaires d'ouverture des services publics, par exemple.
En même temps, sur les trucs comme ça, combien de réponses de questions à la con ou de suggestions à la con il doit y avoir par rapport à des trucs un peu sérieux?
De toute façon, moi, on m'a dit un jour, les gens qui écrivent aux élus sont des fous. Donc, normalement, tu ne devrais avoir que des fous qui écrivent là-dessus.
Il doit y avoir beaucoup, quand même. Ouais. Après, la modernisation de l'État, je pense, c'est aussi un moyen pour l'État, comment dire, de réduire le nombre de fonctionnaires, peut-être aussi.
Aussi.
Double tranchant là-dessus. Donc, pour moi, cette élection est un petit peu un nouveau rendez-vous manqué entre le citoyen et le politique. Dans le sens que les nouvelles technologies ne sont pas réellement, ne font pas partie des outils politiques.
Mais alors, on aura peut-être les résultats avant 20h?
Oui, grâce au site de sondage suisse.
Grâce au web, quand même.
Alors, attention, parce qu'il y a un député UMP qui avait demandé à ce qu'on poursuive tous les gens qui donnaient ces résultats avant 20h. Ah. Donc faites attention à vous, Adopi Veil.
Les hommes politiques ont le droit d'être informés dès 19h. Voilà, oui.
Bien avant. Voilà. Dès 13h, normalement, ils sont au courant.
Voilà. Et je ne vous parle pas du vote électronique, qui sera sans doute l'occasion d'un nouveau dossier, parce que là aussi, pas de vote électronique. Alors qu'on pourrait très bien... Il y a les techniques, les technologies.
Là, je ne suis pas d'accord.
What?
Non, le vote électronique n'est pas prêt. Voilà. C'est une très bonne chose, mais d'accord. Le vote électronique, malheureusement...
Il y a des pays qui le font, non?
Bien sûr que oui.
Oui. Oui, ouais.
Donc là, en France, on a un peu l'Éthiopie de.
D'accord. Non, le vote électronique pose.
Si le paiement électronique marche bien, je vois pas pourquoi le vote électronique serait plus compliqué.
Oh, tout de suite. Attends, faut cocher. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi.
Alors, il y a deux choses. Il y a le vote électronique en bureau de vote et il y a le vote électronique de chez soi. Ah, ouais. Qui sont deux choses différentes.
Ouais. Il y avait eu des fraudes en 2000.
Quel que soit, il y a toujours des fraudeurs à tout. Hein. Ouais. Bon.
Non, mais on dit qu'il y a un déni. Enfin, on est quand même en termes d'abstention sur des phénomènes assez importants.
Ouais.
Le vote électronique, je pense, serait moyen de combler ce déficit.
Après, il y a des gens qui peuvent avoir peur. Moi, par exemple, j'ai jamais rien acheté sur Internet parce que ça me fait peur. Bah, le vote, ça peut être pareil. Tu peux avoir peur d'être surveillé, qu'on voit ce que tu votes. Il faut aussi qu'il y ait la possibilité de faire autrement.
Ouais. Il y a quelque chose à creuser derrière, mais il y a beaucoup de travail.
Ça ouvre des perspectives, effectivement. C'est jamais si simple.
Guillaume, tu nous parles de la fête de l'Internet, hein?
Oui, mais avant, j'aimerais quand même te parler un petit peu de des forces en présence sur Internet, parce qu'on a parlé un petit peu de politique, là, j'aurais aimé faire...
J'ai essayé d'éviter le sujet.
Donc, en fait, pour vous faire un petit, un petit rapide état des lieux des forces en présence sur Internet.
Il y a les Anonymous.
Qui a le plus de budget, qui a le plus de followers et d'amis sur Facebook. Alors, Sarkozy et Hollande ont environ 2 millions d'euros de budget de campagne Internet. Bayrou est à 700 000 euros et Joly et Le Pen sont à 200 000 euros et Mélenchon, le petit poussé, avec 100 000 euros.
Voilà. Alors, j'ai vu que Nicolas Sarkozy, à son meeting de Villepinte, avait carrément sorti des dizaines de tables réservées aux blogueurs et avait invité tous les blogueurs influents pour parler de lui.
Ben, j'espère bien parce que sur Twitter, il est un petit peu à l'arrache. Hein. Hollande mène largement la course avec 193 000 followers. Alors, le follower, c'est celui-là qui te suit. Hein. Si tu fais « j'ai mangé de la soupe », ton suiveur saura que tu as mangé de la soupe. C'est très intéressant. Et les autres candidats sont à 50 000 followers sur Twitter. Donc, sur Twitter, Hollande mène un petit peu la barque. Par contre,
sur Twitter, d'ailleurs. À ce qui paraît.
À ce qui paraît. Par contre, sur Facebook, là, Nicolas Sarkozy flirte avec les plus de 576 000 amis. Hein. Faut voir que d'être président de la République, c'est un truc pour avoir des amis.
C'est toujours pareil.
Voilà. Donc, Hollande a juste 71 000 amis qui le suivent. Marine Le Pen, 46 000 amis. Mélenchon, 38 000. Bayrou, 25 000. Et Vajoli, 18 000.
Alors, c'est très important. Enfin, j'ai vu la dernière fois sur BFM TV, je crois, qui comparait l'audience des émissions de télé comme des paroles et des actes au nombre de tweets qui parlaient de l'émission. Donc, comme quoi Internet prend de l'ampleur
Ça
dans la campagne.
Ouais, c'est de plus en plus mesuré comme indice de satisfaction ou pas. Un élément intéressant, c'est de, un élément intéressant, c'est de juste voir le nombre de vidéos vues sur chaque candidat. Donc là, on arrive avec Hollande en tête avec 1 million de vues, plus d'1 million, 600, Sarkozy 600 000 vues, Bayrou 500 000 vues. Et le 26 janvier dernier, en fait, Mélenchon et Le Pen étaient tous les deux autour de 300 000 vues. Mais cette semaine après, en fait, on se retrouve avec Marine Le Pen qui affiche plus de 600 000 vues. D'accord. Alors que Mélenchon est arrivé aux 310 000, quoi. Donc, juste pour conclure, Hollande semble bien rivaliser avec le président sortant, avec une forte communauté sur Twitter qui lui permet de relayer son message et d'être audible, avec une vraie curiosité sur son programme, si l'on en juge par le million de vues sur ses vidéos. Mmh. Sarkozy s'appuie sur l'existant, avec ses milliers d'amis, sur centaines de milliers d'amis sur Facebook. Par contre, sa stagnation sur Twitter et YouTube montre qu'il ne renoue pas avec le monopole de la parole, comme ce fut le cas en 2007. Par exemple, il n'est plus le leader des annonces, comme ce fut le cas. Si je vous dis 75%, vous savez tous de qui je parle.
C'est Hollande.
Voilà. Or qu'en 2007, travaillait plus, vous savez pour qui...
Ouais.
Voilà. Donc, au niveau de la sphère de communication, c'est Hollande qui gagne. Voilà.
Un petit mot rapide sur la fête de l'Internet, quand même.
Oui, alors la fête de l'Internet aura lieu...
T'as 2 secondes.
Du 16 mars au 30 mars, et venez à la MJC, à la cyberbase, vous pourrez sauver le Minitel ou essayer Windows 8, entre autres.
Voilà, donc chaque année, la fête de l'Internet. Plus d'informations sur mjcrodez.com et sur Facebook. Et on se quitte rapidement parce qu'on est un peu à la bourre. Donc, à la semaine prochaine et bonne semaine à tous.
Salut.
Salut.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.